Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Une, c'est plaidoyer du coordonnateur de l'action humanitaire en RDC pour la réouverture de l'aéroport international de Goma. Bruno Lemaki estime que si cela se faisait ne fût-ce que pour les vols humanitaires, cela aiderait à apporter de l'aide aux populations vulnérables qui en ont grandement besoin. Cela faciliterait aussi le travail des humanitaires, il l'a dit hier alors qu'il clôturait une mission dans cette partie du pays. Et puis ce séisme au Sénat, le deuxième vice-président Modeste Bahati Lukwebo a démissionné de ses fonctions hier. Une décision qui intervient quelques heures seulement après la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner une pétition initiée contre lui. Pas de texte du jour dans ce journal, mais en invité. Nous reviendrons avec Bruno Lemarqué, coordonnateur humanitaire en RDC, sur la mission de trois jours qui vient de clôturer à Goma. Il aborde notamment la question de la baisse de l'aide au développement et ses conséquences. Pour lui, il faut que les processus politiques engagés pour la paix donnent des résultats concrets sur le terrain pour améliorer la situation des populations. Bienvenue à cette édition du journal. Avant de développer ces titres, sachez d'abord que la RDC et le Rwanda ont convenu de mesures concrètes pour poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington signé en décembre 2025. Selon un communiqué du département d'État américain publié hier mercredi, cela fait suite à une réunion tenue mardi et hier mercredi à Washington en présence des États-Unis. Les deux pays de la région des Grands Lacs se sont accordés sur des mesures coordonnées pour désamorcer les tensions sur le terrain. Le communiqué précise que cela inclut le soutien à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, le désengagement programmé des forces, la levée des mesures défensives par le Rwanda dans des zones du territoire congolais, ainsi que des efforts renforcés et limités dans le temps par la RDC pour neutraliser les FDLR. Ces mesures incluent également la protection de tous les civils. La réouverture de l'aéroport international de Goma, même limitée aux vols humanitaires, faciliterait grandement l'intervention Nord Kivu. C'est le vœu partagé hier mercredi à Goma par le coordonnateur de l'action humanitaire en RDC. Selon Bruno Lemarqué, il est devenu extrêmement difficile pour les acteurs humanitaires d'atteindre la ville car ils sont désormais obligés de transiter par le pays voisin, une situation qui complique aussi l'arrivée de l'assistance d'urgence. Mais pour espérer une reprise effective de vols sur cet aéroport fermé depuis janvier 2025, le coordonnateur humanitaire estime qu'il faut avant tout une volonté politique de toutes les parties et une sécurité garantie. On écoute à ce sujet Bruno Lemarqué au micro de Rosalie Zawadi.
Ça fait un long chemin pour venir à Goma, compris moi-même pour ce voyage. On sait, il coûte beaucoup d'argent aussi, oui, pour se déplacer, parce qu'il faut passer par d'autres pays pour arriver à Goma. Donc, ça faciliterait vraiment la vie des collègues, et puis éventuellement aussi du petit fret. Certains médicaments, des vaccins, etc., ça serait quand même beaucoup plus pratique et rapide s'il pouvait y avoir une reprise de petits vols humanitaires. Mais la réalité, pour le moment, c'est que la réouverture de l'aéroport va avoir besoin de volonté politique, de faire en sorte que ce sujet de l'aéroport soit mis sur la liste des sujets dans les discussions entre les parties, notamment à Doha. Au-delà de ça, il y a un certain nombre d'étapes qui devront être franchies. D'abord, la situation sécuritaire qui, comme on le sait, a changé récemment avec un recours de plus en plus marqué aux drones. On a vu cet incident de la semaine dernière dans la ville de Goma, donc ça change un peu la donne sécuritaire. Et pour qu'il y ait rouverture de l'aéroport ou bien reprise de quelques vols, il faudra vraiment des garanties sécuritaires. Ça, c'est un point. Ensuite, il y a des aspects techniques. Ensuite, il y a les aspects plus administratifs, notamment la gestion de l'espace aérien souverain et puis la gestion de l'aéroport.
Restons dans la région avec ces chiffres alarmants. 280 dossiers de violences sexuelles ont été enregistrés en 2025 à Butembo dans le Nord Kivu, des chiffres révélés par le réseau pour les droits de l'homme REDO. Cette organisation de la région signale une recrudescence de cas de violences sexuelles dans la ville de Butembo et ses environs. Ce phénomène touche principalement les femmes ainsi que les jeunes filles et selon REDO, il suscite des inquiétudes au sein des organisations de défense de droits humains. Face donc à cette situation, les acteurs locaux appellent à un renforcement des mesures de prévention, de prise en charge des victimes et de lutte contre l'impunité. DDT avec Martial Papimoukeba.
Les organisations féminines locales s'alarment de l'augmentation des cas de violences sexuelles à Butembo et ses environs. Et les derniers rapports du réseau pour les droits de l'homme REDO n'est pas pour les apaiser. Cette ONG parle des 280 dossiers enregistrés à 2025, soulignant l'ampleur du phénomène. Muhindo Asivinwa est son coordonnateur.
Les cas de violences sexuelles continuent à croître à ville de Butembo et à Viro. Certains cas sont portés devant les instances judiciaires et d'autres ont connu des arrangements à l'amiable pour toute l'année 2025, 280 dossiers de violences sexuelles ont été fixés au tribunal militaire de Butembo. Plusieurs autres sont encore à cours de traitement au parquet, civil comme militaire. Les auteurs sont des civils, des militaires et parfois des policiers.
Les organisations locales plaident pour la répression de ces crimes et pour la sensibilisation contre les violences sexuelles dans la communauté. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Sécurité encore et en Ituri, cette fois, de nombreux pêcheurs opérant sur le lac Albert dans les territoires d'Irumu et de Djougou haussent le ton et dénoncent des actes répétés de pillage. Selon la Fédération du Comité des pêcheurs du lac Albert, FECOPELA, certains miliciens de la Force de Résistance Patriotique de l'Ituri, la FRPI, les dépouillent régulièrement de leurs poissons et de leur matériel de pêche. Conséquence, plusieurs pêcheurs abandonnent leur activité et cela entraîne une hausse de prix de poissons sur le marché. Ils appellent ainsi le gouvernement à restaurer l'autorité de l'État dans cette zone. Isaac Raymond.
Depuis le début de l'année 2026, au moins une centaine de pêcheurs ont été victimes de pillages sur les lacs Albert dans les territoires d'Irumu et de Djougou. Selon la FECOPELA, ces pêcheurs ont perdu du matériel important, notamment des filets, des moteurs hors-bord et du carburant. En cause, les miliciens de la Force de Résistance Patriotique de l'Ituri, la FRPI, qui mènent régulièrement des patrouilles sur les lacs, se substituant au service de régulation de la pêche. Des actes qui se dérouleraient, selon cette structure, sous le regard des forces navales et de la police lacustre. La FECOPELA estime que ces pratiques mettent en danger la sécurité des pêcheurs, perturbent les activités de pêche et menacent les moyens de subsistance des communautés riveraines. Son président Moïse Ouechi Ouelekano indique que plusieurs pêcheurs ayant perdu tout leur matériel ont été contraints d'abandonner leur activité. D'autres, travaillant désormais à perte, se découragent progressivement. Conséquence, les poissons deviennent de plus en plus rares sur les marchés avec une hausse notable des prix.
Cela menace directement la survie économique des communautés riveraines. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures urgentes afin de garantir la sécurité des pêcheurs et de leurs biens. La sécurité sur le lac Albert est essentielle pour la paix.
Jusqu'à présent, ni l'armée ni le comité de surveillance du lac Albert n'ont réagi à ces accusations. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Surprise ou pas, en tout cas, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Batidou-Kwebo, a démissionné de ses fonctions hier mercredi, une décision qui intervient quelques heures seulement après la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner une pétition initiée contre lui par un groupe de sénateurs. Ces derniers l'accusent d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions, des accusations jugées infondées par son camp politique qui dénonce un complot. Comment en est-on arrivé là? Retour sur les faits avec Grace Amzati, notre permanent au Parlement.
Tout commence le 4 mars dernier. Le sénateur Modeste Batidou-Kwebo tient un point de presse. Il s'exprime sur la question de la révision de la Constitution. Pour lui, les difficultés du pays ne viennent pas des textes, mais du comportement de certains dirigeants. Le pays n'a pas un problème de textes, il a un problème d'hommes, affirme-t-il. Une déclaration qui déclenche une vague de réactions et de controverses, notamment au sein de l'Union sacrée de la Nation, la plateforme au pouvoir dont il est membre du Présidium. Dans la foulée, une pétition est initiée par le sénateur Danny Kabongo. À ce stade, il est reproché à Batidou-Kwebo un manque de respect envers le président Félix Tshisekedi, autorité morale de l'Union sacrée. Face à la polémique, Modeste Batidou-Kwebo tente de clarifier ses propos qu'il juge mal interprétés. Il présente ensuite ses excuses à sa famille politique et réaffirme sa loyauté au chef de l'État. Mais les pétitionnaires ne désarment pas. Lundi 16 mars, jour de la rentrée parlementaire, la pétition est officiellement déposée. Cette fois, Danny Kabongo parle d'incompétence. Des accusations rejetées par Batidou-Kwebo. Dans sa lettre de démission, il affirme que sa décision est motivée par la recherche de la sérénité au sein de la chambre haute du Parlement et non par l'aveu d'une quelconque incompétence. Il soutient s'être toujours acquitté de ses charges professionnelles correctement et en temps réel. Avec cette démission, une nouvelle page s'ouvre au Sénat, désormais appelé à organiser l'élection de son remplaçant.
Autre nouvelle, c'est la réaction du gouvernement congolais après le drame survenu la nuit du 10 au 11 mars sur le site minier de Safi à Kakanda dans la province du Lualaba. Le ministère des Mines met en place un plan de riposte en trois volets pour assainir le secteur et prévenir de nouveaux incidents. Il compte par exemple rétablir la légalité sur le site en le sécurisant et en garantissant le respect des règles d'exploitation. C'est ce qu'indique un communiqué officiel parvenu hier mercredi à Radio Okapi. Je vous rappelle que le glissement de terrain y a fait 11 mois parmi les creuseurs artisanaux, des détails avec Gassam Zati.
Selon le ministère des Mines, Les victimes se trouvaient dans une zone industrielle interdite d'accès sur les sites des boss mining. Dès les premières heures, les services de l'État ont été mobilisés pour les secours et l'identification des victimes. Une enquête a ensuite confirmé la présence des creuseurs dans un périmètre non autorisé. Sur cette base, le gouvernement annonce trois mesures. D'abord, encadrer les creuseurs artisanaux en les identifiant et en les orientant vers des zones sécurisées. Ensuite, rétablir la légalité sur les sites en les sécurisant et en garantissant le respect des règles d'exploitation. Enfin, traquer les réseaux illégaux avec des sanctions contre les impliqués et des poursuites judiciaires. Objectif, éviter de nouveaux drames, protéger les exploitants et mettre fin à l'exploitation clandestine, indique le communiqué.
Place à présent notre série de reportages consacrée à la ville de Bénin. Nous nous intéressons ce jeudi au quatrième et dernier reportage axé sur les conséquences de la croissance de cette ville du Nord Kivu. En effet, depuis plus d'une année, la ville est devenue le chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu après l'occupation de Goma par l'FC-M23. Cette situation a entraîné l'arrivée de nombreux services publics, d'organisations humanitaires, d'acteurs économiques, mais aussi des populations déplacées. Comment cela se présente, Martial Papimukeba?
Depuis plus d'une année, la ville de Beni accueille des services provinciaux de l'État, des organisations humanitaires, des acteurs économiques, mais aussi des populations déplacées. Cette nouvelle dynamique entraîne une forte demande en logement, en infrastructure administrative et en services de base. Dans certains quartiers, les loyers ont presque doublé de prix et les habitations deviennent parfois insuffisantes pour accueillir les nouveaux arrivants. Les activités commerciales se sont également intensifiées à Beni, notamment en raison de sa position stratégique. La ville constitue une porte d'entrée et de sortie pour diverses marchandises en provenance des pays de l'Afrique de l'Est. Mais cette croissance rapide pose aussi plusieurs défis. Les infrastructures urbaines, déjà limitées, peinent à suivre les rythmes de cette expansion démographique, notamment dans les services sociaux de base comme l'accès à l'eau. Devenu le cœur administratif provisoire du Nord Kivu, Beni voit aujourd'hui ses responsabilités grandir plus vite que ces infrastructures, ce qui pose la question des investissements nécessaires pour accompagner cette transformation. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Direction Kananga, où la situation des enfants vivant aux côtés des femmes atteintes de troubles mentaux suscite de vives inquiétudes. Les enfants reporters de la ville, en réseau soutenu par l'UNICEF pour la promotion des droits de l'enfant, dénoncent cette situation jugée et préoccupante. Selon eux, ces enfants sont exposés à de nombreux dangers, notamment des intempéries, l'insécurité, les maladies et l'absence totale d'encadrement. Ils appellent les autorités nationales et locales ainsi que les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'enfant à intervenir d'urgence pour protéger ces mineurs et leur garantir un avenir meilleur. Les détails avec André Katendengalamoulumé.
À travers leur message, les enfants reporters du Kasaï central alertent sur la situation des enfants vivant aux côtés des femmes atteintes des troubles mentaux. Selon eux, ces mineurs sont exposés à de nombreux risques, notamment les intempéries, les maladies et l'absence d'un encadrement adéquat. Armel Mbouyou, président des enfants reporters du Kasaï central, explique.
À Kananga, certaines femmes atteintes des troubles mentaux errent dans les rues, accompagnés de leurs enfants. Ces derniers sont exposés à des multiples dangers, intempéries, maladies, malnutrition, insécurité et absence d'encadrement éducatif.
Ces enfants sont également confrontés à des risques psychologiques. Selon Félicien Piema, expert en psychologie, cette exposition prolongée peut influencer leur comportement.
L'enfant, c'est un perpétuel apprenti, il développe plus l'observation et vous verrez cet enfant réagir de la même manière que sa mère.
Face à ces dangers, les enfants reporters appellent les gouvernements congolais et les organisations de défense des droits de l'enfant à s'impliquer davantage, notamment en orientant ces mineurs vers des familles d'accueil ou vers des centres spécialisés d'encadrement. Kananga, André Katendengalamoulumé, Radio Kapi.
Page noire dans ce journal, une figure politique féminine vient de nous quitter en ce mois dédié à la femme. Il s'agit de Catherine Zouzoua Mbombo, la doyenne des femmes politiques de la RDC, décédée hier en début d'après-midi à la clinique Kalema ici à Kinshasa à l'âge de 82 ans, selon son avocat Jean-Pierre Kombe que nous avons joint. Catherine Zouzoua Mbombo a commencé sa carrière politique à Kinshasa à l'âge de 23 ans en assumant la fonction de bourgmestre de la commune de Lagombe à Kinshasa. Kinshasa. Elle a été commissaire provinciale, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, gouverneur de la province du Bas-Zaïre de 1972 à 1974 et gouverneur de la ville de Kinshasa. Elle fut également vice-présidente puis dirigeante du parti Mouvement Populaire de la Révolution de Mobutu. En 2006, elle fut candidate à l'élection présidentielle, représentante de MPR. Après l'ouverture du Zaïre à la démocratie en 1990 jusqu'à la chute du régime, elle fut conseillère particulière du chef de l'État. La doyenne des femmes politiques de la RDC présidait plusieurs ONG de promotion de la femme et d'encadrement des femmes commerçantes. Paix à son âme.
Actualité internationale.
115 millions de dollars américains, c'est la somme que le Rwanda réclame à la Grande-Bretagne après l'annulation de l'accord sur la réinstallation des réfugiés conclu entre les deux pays en 2022. Kigali a exposé la requête hier mercredi devant la Cour permanente d'arbitrage de la Haye.
L'invité.
En République démocratique du Congo, les humanitaires ne peuvent plus assister les personnes vulnérables comme ils le faisaient auparavant, en cause la baisse mondiale de l'aide publique au développement. Aujourd'hui, pour les populations de l'Est du pays, il faut que les processus politiques pour la paix donnent enfin des résultats concrets sur le terrain. Ce sont les propos du coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Demarquis, mercredi à Goma, au terme de sa mission de 3 jours au Nord Kivu. Quels étaient les objectifs de ce séjour et quel bilan en tirer? Bruno Demarquis répond aux questions de Rosalie Zawadi.
Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi cette visite à Goma en ces moments précis?
Bon, j'essaye, dans la mesure du possible, de venir régulièrement sur le terrain, à Goma ou dans d'autres parties de la République démocratique du Congo. J'ai pensé que c'était important de venir, d'autant plus qu'il y a eu donc cet incident la semaine dernière qui a touché la famille des Nations Unies avec le décès de notre collègue d'UNICEF qui a eu lieu ici à Goma. Et donc la famille des Nations Unies est en deuil et la famille UNICEF est en deuil, donc c'était aussi important de venir à ce moment-là, mais c'est aussi toujours une visite de solidarité auprès des collègues des Nations Unies et des collègues de la communauté humanitaire également. Et puis également, lorsque je viens ici, c'est aussi pour avancer certains dossiers, débloquer certaines situations et avoir un dialogue avec les autorités de fait sur certains sujets qui concernent principalement l'assistance humanitaire.
Justement, vous avez rencontré mardi les autorités de l'AFC M23. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre?
En tant que coordonnateur humanitaire, mon objectif lors de ces rencontres, c'est de faire en sorte que la communauté humanitaire puisse travailler, puisse avoir accès aux personnes les plus vulnérables du fait des situations de conflit dans les territoires concernés. Bon, il y a déjà des discussions de principe sur l'importance du respect du droit international humanitaire, l'importance de l'accès sans entrave, l'importance de préserver l'espace humanitaire pour que nous puissions donc avoir cet accès auprès des personnes les plus nécessiteuses. Il y avait aussi certains points techniques où parfois ma présence peut aider à débloquer certains dossiers.
Au Nord Kivu, des milliers de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, mais plusieurs acteurs ont suspendu leurs activités. Que prévoyez-vous au niveau de la coordination de l'action humanitaire en faveur de cette population du Nord Kivu qui est en difficulté?
Alors, pour ce qui concerne le Nord Kivu dans son entièreté, donc que ce soit le Grand Nord ou le Petit Nord, il y a encore beaucoup de mouvements de population. À l'heure qu'il est, dans toute la RDC, il y a plus de 6 millions de personnes déplacées internes, dont pour la province du Nord Kivu, actuellement, c'est 1,2 million de personnes déplacées internes, et beaucoup dans les zones de front, les zones de conflit. Et il y a aussi beaucoup de retournées, des personnes qui sont récemment retournées chez elles, parfois de manière volontaire, parfois de manière forcée. Et donc il y a toutes sortes de situations. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Et donc pour le moment, il y a 2,2 millions de personnes retournées au Nord Kivu. Donc c'est 1,2 million de personnes toujours déplacées, 2,2 millions de personnes qui sont retournées. Ces personnes ont besoin de beaucoup d'assistance, que ce soit de l'assistance d'urgence pour les personnes, notamment les personnes fraîchement déplacées, mais ça peut pas être la même assistance d'urgence qui est donnée aux personnes retournées. Alors, il y a eu un grand changement qui est arrivé entre 2024 et 2025, c'est la baisse au niveau mondial des financements de l'aide, ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Donc, en 2024, la réponse humanitaire en RDC a été financée à hauteur de 1,25 milliard de dollars par les bailleurs de fonds internationaux. Et ça représentait 50% de ce qui avait été demandé. Ce qui avait été demandé au total, c'était 2,5 milliards de dollars et 1,25 milliard de dollars avait été mobilisé, ce qui était le plus grand montant jamais mobilisé pour la RDC. Mais 70% de ce montant était financé par un seul bailleur de fonds, qui étaient les États-Unis d'Amérique. Donc nous, comme humanitaires, on remercie toujours toute la communauté des bailleurs de fonds pour leur appui. Mais la RDC était le pays le plus dépendant au monde de l'aide américaine. Ensuite, il y a eu ce grand changement au niveau mondial avec des coupures budgétaires, notamment du côté des Américains. Et en 2025, les financements qui ont été récoltés, c'était uniquement 660 millions de dollars, donc à peu près la moitié. Donc ça a été une énorme chute avec un impact direct sur les populations les plus nécessiteuses et aussi un impact, et on le voit ici dans la ville de Goma notamment, un impact sur les organisations humanitaires qui ont dû fermer des bureaux, licencier du personnel. Et ça, on ne parle pas uniquement des organisations internationales, c'est aussi beaucoup, beaucoup les organisations congolaises qui ont été touchées. En 2026, il y a une timide reprise, on espère qu'elle va se poursuivre et on remercie toujours bien sûr les bailleurs de fonds, mais il y a beaucoup, beaucoup d'efforts à faire compte tenu de l'ampleur des besoins, notamment à l'est de la RDC. Donc pour les populations qui écoutent cette émission, il faut qu'ils sachent que les humanitaires ne sont plus en mesure de faire ce qu'ils pouvaient faire il y a encore quelques années. Donc ce qu'il faut surtout, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de besoins. Alors pour qu'il y ait moins de besoins, il faut d'abord que les processus politiques délivrent des résultats, que ce soit le processus de Washington, le processus de Doha, le rôle de l'Union africaine, etc. Il faut que ces processus se concrétisent sur le terrain, et pour l'instant, il y a toujours un décalage entre ce qui a déjà été signé et la mise en œuvre sur le terrain.
Bruno Lemarquis, je rappelle que vous êtes coordonnateur humanitaire en RDC et représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Merci.
Merci beaucoup.
Merci également à vous, Rosalie, et merci à vous tous, auditeurs, auditrices, internautes, de l'attention accordée à ce journal préparé par Lévin Bouinga, mis en onde par Pierre Diassinois. Bonne journée à vous.